Nous avons commencé il y a quelques semaines l'épître aux Éphésiens. Et peut-être en la lisant dans les premiers chapitres, vous vous êtes dit, oh, c'est compliqué quand même à comprendre. C'est pas un langage simple, c'est très théorique, très théologique, très doctrinal. C'est pas très concret. Et pourtant, cet épître aux Éphésiens a mis des mots sur ce qu'est notre appel, notre vocation. En tant qu'être humain, pécheur, péchu, foutu, le Seigneur a décidé de nous sauver. Il nous a offert le salut, il nous a dit, si tu veux, je te tire de là. Et je te tire de là pour t'emmener quelque part, ben où? À quoi? Et l'épître aux Éphésiens nous a ouvert cet appel, cette vocation. Et nous l'avons vu, cette vocation envers les autres, c'est de réunifier une humanité déchirée, une humanité divisée, fracturée, les riches contre les pauvres, les moches contre les beaux, les arabes contre les juifs, contre les français, contre les autres, je ne sais pas quoi, elle est fracturée à tout niveau, y compris dans les familles qui se déchirent. Un beau gâchis. Et le Seigneur a voulu réunir en un ce qui était divisé, fracturé, en mille morceaux. Et il nous appelle à ce travail. Il nous appelle, en tant qu'Église, à cette unification. Mais notre vocation, c'est aussi une espérance pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est de bénéficier d'une source inépuisable d'espérance qui désaltère notre âme et qui nous amène à la vraie joie intérieure. Il y a en Jésus-Christ un trésor pour notre être intérieur, afin de ne pas succomber au découragement, afin de ne pas rester dans la dépression, afin de ne pas être un champ de ruines à l'intérieur de nous-mêmes, mais de pouvoir vivre une résurrection. De pouvoir, à travers des épreuves et des difficultés, trouver le chemin de la paix et de la joie en Jésus. Ah, c'est une belle vocation. Mais voilà, est-ce que nous marchons dans cette vocation? On dit, oh ben non, on veut plus de fracture. Ben bien sûr, j'ai envie de jouir de cette espérance, j'ai envie d'être heureux à l'intérieur. Ben bien sûr. Mais il y a des conditions. Et ces conditions, on les a déjà examinées dans le chapitre 4. Elles étaient résumées par le fait de vivre des relations paisibles et bienveillantes envers les autres. Envers tous, sans exclusion. Deuxièmement, c'était le fait de s'accepter soi-même en Jésus, avec une estime de soi, ni démesurée, ni minimisée, mais placée en Christ. Parce que pour pouvoir être bien avec les autres, il s'agit d'être bien avec soi-même, et être bien avec soi-même en Jésus. Et puis, nous l'avions vu enfin, une dernière condition, c'était d'avoir une vie d'église locale réellement fournie. Parce que c'est au travers de la vie d'église locale que Dieu a prévu de manière exclusive de nous rendre semblables à Jésus-Christ et de nous faire progresser jusqu'à sa stature parfaite. Alors, voilà Paul, pour l'instant il a eu un langage un peu abstrait. Et là vous dites, Adrien tu parles, je comprends pas tout, c'est pas toujours très concret. Et Paul va donc passer, à partir du milieu du chapitre 4 jusqu'au milieu du chapitre 6, il va passer à un langage beaucoup plus direct, beaucoup plus concret. Il va dire aux chrétiens en quelque sorte, bon, écoutez, maintenant, on va parler concrètement. Hein. Et d'ailleurs, c'est important, une petite parenthèse, je souligne la nécessité que dans un enseignement biblique, il y ait ces deux directions. Celle un peu théorique, un peu abstraite, et puis celle beaucoup plus pratique et concrète de la vie de tous les jours. S'il y avait un enseignement qui n'était fait que de pratique, ça serait un peu comme une maison sans fondation. On dirait bien, il faut agir comme ceci, il faut agir comme cela, il faut faire comme ceci, cela, mais on ne saurait même pas pourquoi. On n'irait pas dans le fond des choses. Voilà pourquoi Paul commence par des choses qui nous semblent un petit peu abstraites, pas toujours très concrètes. Elles sont nécessaires. Cependant, si on restait dans l'abstrait, eh bien, ça serait un enseignement qui nous couperait de la vie quotidienne. Ce serait une sorte de spiritualité un peu mystique qui n'a aucune répercussion dans notre quotidien. Et pourtant, nous avons chanté « Change mon cœur, Seigneur ». Et quand un cœur change, c'est une vie qui change, c'est des relations qui changent, c'est des actions qui changent, c'est des pensées qui changent. Et dans les chapitres 4 à 6, ah bien alors là, il y a du concret. Alors ce matin, si vous permettez, eh bien on va parler concret. Hein? On a fait plein de trucs comme ça, on a parlé de l'espérance, de notre vocation, de la richesse, de s'asseoir avec Jésus, de tout ça, oui. C'est bien. Mais maintenant, concrètement, une vie changée par Jésus-Christ, ça va s'attaquer à quoi? Concrètement, afin qu'il n'y ait plus de fracture, il va falloir s'attaquer à ce qui cause les fractures. Et une première chose que nous allons voir, ben, c'est le mensonge. Le mensonge, est-ce que le mensonge a de la place dans ma vie? Et Paul, c'est la première chose qu'il dit. Il dit renoncer au mensonge. Chapitre 4, verset 25. Renoncer au mensonge. Marchez dans la vérité. Ne faites pas des choses avec un cache-cache. Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on ment à son patron? Est-ce qu'on ment à son conjoint? Est-ce qu'on ne lui dit pas tout? Hein? Il y a des choses qu'on cache de sa vie, de ses occupations, de ce qu'on fait. Est-ce qu'on ment? Moi, pendant ce période de ma vie, j'ai vécu un peu dans le mensonge. Je disais pas tout. Mais j'irais pas bien. Comment on peut aller bien quand on vit dans le mensonge? Il y a eu un moment où il a fallu que plus loin, on était bien chiffre, hein. Un verset qui m'a dit, au verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Comment marcher droit et se tenir droit dans la vie, hein, cette ceinture, avoir une colonne vertébrale, si c'est pas la vérité qui vient. Ah oui, il va falloir abandonner nos petites formes de mensonges, les petites et les grosses. Et déjà là, on y a à bien s'examiner. Est-ce que je mens? Est-ce que je fais des entorses, des contournements avec la vérité? Je l'adapte un peu à ma sauce. C'est si vite fait. Y compris dans des petits coups de fil pénibles que vous recevez de publicité. Hein. Oui, monsieur frère, vous êtes donc bien propriétaire de votre maison parce que vous... Oh là là, je vous arrête, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Comme ça, vous coupez court, il vous embête pas pendant 10 minutes, et là, patate. Mais c'est un mensonge. Je suis propriétaire. Alors la dernière fois, je leur ai dit, mais ça vous concerne pas. Savoir si je suis propriétaire ou locataire, c'est ma vie privée. Ben voilà, bon. Au moins, je mens pas. C'est un gars, tu connais pas, il demande ses propriétaires ou locataires, c'est pas son problème. Mais, à un moment, je coupais court en disant, je suis locataire. Mais c'est un mensonge. C'est tout. Et quand on accepte une part de mensonge dans ta vie, on va l'accepter, enfin, comme on dit, qui voit la neuf, voit la neuf. Qui ment à la standardiste, mentira à sa femme. Voilà. En gros, vous comprenez le mensonge. Seigneur nous demande de nous tenir dans la très important. Pourquoi? Parce que qui est le père du mensonge? Satan. Il est appelé le père du mensonge. Alors il faut renoncer au mensonge. Dans nos relations les uns avec les autres, c'est très important d'être vrai. Une deuxième chose, pour des relations paisibles et bienveillantes, c'est l'amertume. Nous le voyons en Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. L'amertume. Ah, j'ai un goût amer dans la bouche. Je l'ai en travers de la gorge, celle-là. Lui, il m'a fait ça. Il est resté coincé là. Je lui en veux. Ça m'a dégoûté. De toute façon. Et on est dans une attitude amère. Et l'amertume, ça remonte. L'amertume, ça nous détruit. Adieu notre belle vocation. Cette espérance en nous pour une joie, malgré les difficultés, ben l'amertume, ça la fait voler en éclats. Là où il y a de l'amertume, il n'y a pas de joie du cœur. Ah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si je suis amer contre quelqu'un, si je lui en veux, à juste titre ou pas, parce que des fois, c'est nos films en plus. On est amer, mais non. Alors qu'une raison l'aime. Parfois, il y a des raisons. Eh bien, le verset 32 nous dit, ben, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous, pardonnant. Vous pardonnant comme Christ vous a pardonné. Comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Voilà, en pardonnant, vous êtes amer, ben maintenant, il va falloir passer l'éponge pour enlever l'amertume. Avoir cette attitude bienveillante envers l'autre, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce que il y a de l'amertume dans votre cœur contre quelqu'un? Si ça y est, eh bien ça vous vole votre joie chrétienne. Si ça y est, c'est la cause d'une fracture. On parlait d'une humanité fracturée. La fracture, elle demeure tant que l'amertume, elle reste. Et c'est le pardon qui répare les eaux brisées, qui répare les relations abîmées. Pardonner. Troisième chose que nous dit notre texte, ce sont les accès de colère. Il dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère. Et texte, c'est vraiment tout accès de colère. Je voudrais dire tout emportement, quand je m'emporte. Moi, ça, c'est un truc que c'est... je peux m'emporter. Donc, c'est un truc sur lequel Dieu a du boulot. Il avait du boulot, non encore, hein. Les accès de colère. On encaisse, et puis à un moment, ça sort. Et puis là, on envoie. Hein. Alors c'est sûr, pour des relations paisibles et bienveillantes, sans fracture, c'est compliqué. Et le Seigneur, il nous dit, mais quand tu vas t'emporter, ça y est, tu t'enflammes, et dans tes gestes, dans ton ton de voix, dans ton attitude, dans... voilà, t'as un accès d'irritation, qui ne passe pas inaperçu, bien sûr. Voilà. Il y a des gens autour qui en font les frais. Bon, peut-être qu'il l'avait cherché, on va se dire. Hein. Il l'avait bien cherché. Hein. Mais qu'importe. Qu'importe qu'il l'ait cherché ou pas cherché, le Seigneur nous dit que cette attitude doit disparaître du milieu de nous. Ce n'est pas la manière de marcher, de vivre d'un enfant de Dieu. Celui qui a dit, Seigneur, je te prends dans ma vie comme mon maître, comme mon berger, parce que j'ai compris que mon ancienne manière de vivre, une manière de fracture. Et le problème, c'est pas tant les autres. Le problème, c'est d'abord moi. Les autres sont aussi un problème, hein. Ne le nions pas. Seulement, les autres ne peuvent pas vivre à la place. Dieu me demandera des comptes. Et toi ? Ah ben moi ? Alors il s'agit hein, de se reconnaître pécheur, responsable, de venir à Jésus, et de dire « Seigneur, je veux m'occuper de moi déjà dans ma manière de vivre. » Et comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Denis, il y a un avant et il y a un après. On ne peut plus vivre comme avant. Si j'appartiens à Jésus-Christ, si je l'ai choisi comme maître et berger, eh ben, il va falloir que je vive comme un enfant de lumière. Et c'est une manière qui est contraire, je dirais, à ma nature naturelle. Qui est contraire à mes réflexes premiers. C'est pas ce qui me vient en premier. Ce qui me vient en premier, c'est un accès de colère, c'est de m'emporter. Parce que ça monte là, et puis... Et bien, mon Dieu, alors, ça va falloir que tu abandonnes tout ça. Un autre exemple de ce qui nous est demandé, les cris. Dans notre texte, ce sont les clameurs, toutes clameurs. C'est quand on monte le ton, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on hausse le ton? Je suis à la préfecture, ça fait 2 heures que j'attends, on m'a renvoyé 3 fois pour des papiers, alors là, je vais faire un scandale. Genre, j'étais faire ma carte grise, scandale, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Alors, on clame. Hein. Il y a du brouhaha, on commence à lever le pont contre la dame du guichet, comment ça se fait? C'est comme ça qu'un chrétien s'appelait à vivre. La clameur, les cris, je hausse le pont. Non, on dit, mais il va falloir que tu abandonnes tout ça là. Quand tu cries sur quelqu'un, ensuite, dans nos relations, qu'est-ce qui peut encore causer des fractures? La calomnie. Ah, quand on dit du mal des autres, quand on répète du mal des autres, parce que notre texte nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit du mal des gens? C'est bon dans la bouche. Certainement parce qu'on a l'impression que nous, comme ça, on est meilleurs. Si on peut dire du mal de quelqu'un, c'est que soi-même, on est mieux que lui. Oui. Eh bien, le Seigneur nous dit, la calomnie, il faut arrêter. Dire du mal des gens, ou répéter les rumeurs qu'on a entendues, c'est pas constructif. C'est pas bienveillant. Qu'est-ce que je dis des autres? Comment je parle des autres? Voilà, dans la vie concrète de tous les jours, Seigneur nous dit, quand tu parles mal des autres, il va falloir arrêter là. Ensuite, nous avons la colère. Vous allez dire, on l'a déjà vu. Non. C'est pas la même colère. La colère dont on a parlé, c'est la colère explosive. Les actes, c'est la colère. La colère dont il s'agit ici, c'est celle qui précède au verset 26, et qui est toute différente. Parce qu'elle dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et plus précisément, dans le grec, c'est un impératif. Mettez-vous en colère et ne péchez point. Parce que, effectivement, d'où vient la colère? C'est l'indignation. La colère, c'est être indigné contre quelque chose qui n'est pas juste. Et Dieu lui-même est en colère contre l'injustice. Il y a une indignation contre ce qui n'est pas normal. Seulement, cette colère-là, elle ne doit pas s'accompagner de tout un wagon de péchés qui va avec. Oui, je peux exprimer le fait que je suis indigné d'une chose. Je peux exprimer. Ça me révolte, ça c'est absolument pas normal, ça me met très en colère, je suis indigné. On peut l'exprimer. Mais le problème, c'est que nous, souvent, on ne se contente pas d'exprimer notre indignation. On l'accompagne de tout un chapelet d'insultes, de gros mots, de menaces, de dévalorisation, de quelques claques parfois. On est en colère. Et ça, je dis plein. Parfois, c'est une colère qui gicle pas, mais qui ronge de l'intérieur. C'est une colère silencieuse. On la garde pour nous. Le Seigneur nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, sur votre hésitation. Cette colère, ça te ronge, hein, tu la gardes. N'attends pas que le soleil se couche. Il va falloir que tu la règles. Tu es irrité, tu es indigné, et peut-être avec raison. Mais tu ne vas pas rester dans cet état-là. Tu vas me l'apporter, ta colère. Parce que le Seigneur, c'est lui qui rend justice. Nous sommes en colère lorsque quelque chose est injuste, ou nous paraît injuste. Mais qui fait justice? C'est Dieu. Et nous pouvons, face à quelque chose qui nous indigne, dire, Seigneur, ça me met en colère, mais tu es le Dieu de la justice. Et bien, tu vois, je ne veux pas me coucher dessus. Tu me dis que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Et là, je te l'attends. Tu feras justice à ta manière quand tu veux ton problème. Mais vous savez que Dieu ne rigole pas. Hein. Il est le Dieu de la justice. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, moi je rendrai. Hein. Ok. Si Dieu ne laissera pas mes péchés passer comme ça, hein, puisqu'il est le Dieu de la justice, il fera justice. La manière dont il fera, c'est son problème. Quand est-ce qu'il le fera, c'est son problème. Je peux lui faire confiance. Et quand je sais que Dieu fera justice, après je peux être triste. Mais je suis plus en colère. Mon indignation qui réclame que justice soit faite, elle va vers le Seigneur et dit, le Seigneur, c'est toi, tu es justice. Le problème, c'est que nous, souvent, on reste sur notre indignation, sur notre colère, sur voilà notre frustration, et on se couche avec, on se lève le matin encore avec, et puis ça dure, et ça dure, et ça dure, et parfois ça dure toute une vie. Bon, c'est de l'amertume. Mais vous voyez, c'est cette colère contre quelqu'un qui n'est pas réglé, qui n'est pas abandonné, et qui nous ronge. Alors, il va falloir, en tant qu'enfants de Dieu, que nous apprenions à ne pas être des personnes dont la colère éclabousse, hein, avec des tas de choses anormales, hein, des menaces, de la violence, des gros mots, de ce qu'on veut. Hein. Mais des personnes qui, en même temps, peuvent exprimer leur indignation et surtout la remettre au Seigneur. Ensuite, nous avons nos mots. Ah, les mots qui sortent de notre bouche. Vous voyez, Paul, il est concret. Hein. Et, au fait, vous avez une bouche. Il y a une grande bouche même. Et dans les relations pacifiques et bienveillantes, la bouche, ça compte. Hein? Ce qu'on dit aux gens, ça peut mettre le feu. Ça peut blesser. La langue, c'est un serpent. On peut faire beaucoup de mal avec notre langue. Et voilà pourquoi il dit qu'il ne sorte de votre bouche, verset 29, 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est la parole mauvaise, là, qui va, envoie ça dans les dents. Voilà. Cette parole, hein, ayant, dans votre bouche, elle n'est pas faite pour des paroles qui l'animent, qui détruisent, qui font du tort. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, ou plutôt, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. C'est-à-dire, édifier, c'est construire. Qui soient constructives et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ma bouche peut être un instrument de bénédiction ou de malédiction. Je peux faire du mal, je peux faire du bien. Et j'ai remarqué qu'on flash toujours plus avec les gens qui nous sont les plus proches. Je trouve que vous avez remarqué. Souvent, ceux avec qui on se permet beaucoup plus de flexibilité dans ce qu'on peut dire, dans le contenu, c'est souvent notre conjoint, nos enfants, d'abord. C'est dans notre cercle plus proche que... Après, parfois ça sort aussi ailleurs. Mais c'est pas parce que c'est ma femme, c'est pas parce que c'est mes enfants que ma bouche peut dire tout et n'importe quoi. Des paroles qui construisent, paroles qui encouragent, sauf des paroles qui dévalorisent, des paroles qui critiquent. Est-ce que j'ai une parole qui construit, constructive? Alors, on va récapituler tout ça avec la diapositive suivante. On a parlé du mensonge, de l'amertume, des accès de colère, des cris, la calomnie, la colère et de nos mots. Alors, c'est concret, hein. Quand il dit, voici ce que je dis, ce que je déclare, vous ne devez plus marcher comme les païens. Voilà des exemples. Où est-ce que j'en suis avec ce Seigneur? Quelle est la chose qui domine encore dans ma vie? Est-ce qu'il y a la colère qui me tient? Est-ce qu'il y a le mensonge qui me tient? Est-ce que ce sont les mots? D'ailleurs, dans les mots, il n'y a pas que les mauvaises paroles qu'on dit aux autres. Notre texte au chapitre 5, verset 4, dit qu'on entend ni paroles grossières, ni propos insensés, équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, on entend plutôt des actions graves. Est-ce que ma bouche est remplie de gros mots quand je parle? Est-ce que je fais des blagues douteuses? Est-ce que j'ai des plaisanteries, vous savez, des jeux de mots ou des réparties? Avoir de la répartie, ça c'est intelligent, avoir de la répartie. Souvent c'est une répartie... pas toujours très gentille, bienveillante. C'est pas toujours très pur. Seigneur nous demande, dans ce qui sort de notre bouche, d'avoir une bouche pure. Alors, nous allons poursuivre maintenant, dans d'autres domaines encore. Tiens, voilà que Paul, puisqu'il est très concret, il dit, vous voulez qu'on parle de choses concrètes, vous en avez assez de... Ah oui, toute la doctrine, toute la théorie. Ah, on a parlé de la vie, hein. On a parlé de votre manière de parler, on a parlé du mensonge, de tout ça, de vos cris, quand vous critiquez les autres, de vos sexualités. Ah, vous voulez qu'on parle de choses concrètes? Alors, on se regarde tous, on dit, arrêtez. Hein? Ah oui? Eh bien, il dit que la débauche ni aucune impureté ne soit même nommée parmi nous. Vous voyez quelque chose qui détruit l'être humain, qui fasse des fractures, c'est une sexualité vécue en dehors du cadre dans lequel il est bienfaisant. Et le cadre qui est bienfaisant, c'est celui que Dieu a mis en place, puisque c'est lui qui a créé l'homme et la femme, afin qu'ils puissent s'engager l'un envers l'autre. Ça s'appelle le mariage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a lu l'homme qui sera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Et toute autre sexualité, elle va nous détruire et détruire les autres. Alors, je ne suis même pas en train de parler de tous les attouchements sexuels des adultes sur les enfants, qui sont, tu me plais. Et on voit comment la sexualité peut être, mais destructrice, ravageuse. Et vous savez très bien que ça existe énormément. On ne parle pas des viols. Il paraît qu'une femme sur deux a eu quelque chose à rencontrer au moins une fois dans sa vie une situation de viol ou en tout cas d'accouchement. Une femme sur deux, c'est pas rien. Mais c'est pas que ça. C'est aussi quand je vais tromper mon conjoint. C'est l'adultère. Ah oui, alors là, pour faire des fractures, on fait des fractures. Mais c'est pas que ça. C'est quand je vais vivre une sexualité en dehors du mariage, en disant, ben, je suis pas marié, je peux faire ce que je veux. Non. Seigneur a un projet, un plan pour qu'on se construise correctement. Il dit, quand tu vas commencer à faire tes expériences sexuelles à droite, à gauche, alors que tu n'es pas marié, tu ne vas pas te faire du bien, tu vas t'abîmer. Vraiment. Alors nous, on en rigole dans notre société, parce que nous, dans notre société, c'est le langage absolument contraire. Mais là encore, il dit, voici ce que je dis, ce que j'ai car vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence comment ? Obscurcie. On ne va pas plus loin que le bouton. On s'étonne pourquoi qu'il y ait couple divorce aujourd'hui, on s'étonne pourquoi un couple ne s'assure plus. Mais c'est pas grave, on encourage à une sexualité débridée avant le mariage. Attendez, ça ne s'arrête pas là. La débauche. Jésus l'a dit, moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il y a tout ce qu'il y a dans nos pensées. Ah ouais. Toutes tes pensées, quand je regarde une femme et qu'elle me plaît bien et je la convoite, je commence à imaginer des choses et tout ça. Et voilà, tu vois, c'est dans la débauche. Tout ce qui se passe dans ton cœur. Mais non, non, tu... que ce genre de choses, ça ne devrait même pas être nommé parmi des enfants de Dieu. Parce que c'est destructeur. Alors nous ne parlons pas de la pornographie, des images qu'on peut si facilement regarder avec son téléphone, avec... Alors, s'il y a tant de sites, c'est qu'ils vont regarder. Alors oui, on veut parler concrètement. Quoi, les gens, on va parler concrètement. Vous en êtes où dans votre pureté sexuelle? Est-ce que vous avez pris la résolution d'avoir un projet de mariage et d'attendre dans la pureté sexuelle ce temps où vous allez effectivement trouver un conjoint selon Dieu avec qui vous allez pouvoir fonder, bâtir, vous réjouir et profiter l'un de l'autre, c'est très bien. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Est-ce qu'on est en train de s'abîmer? Si on s'abîme. Eh bien, le Seigneur nous interpelle. Nous disons, tu sais, tu peux réjouir ces choses-là. Ok, jusqu'à présent, tu as été dans ce mode-là. Et maintenant, je parle à ton cœur et tu peux changer. Tu peux y renoncer. Tu peux aller vers la pureté. Après la sexualité, évidemment, Paul nous parle du couple. Bah oui, on en est où pour ceux qui sont mariés? Est-ce que je m'occupe plus des femmes des autres que de la mienne? Est-ce que je fais vraiment attention à mon épouse? Dans le chapitre qu'on a lu ce matin, il dit que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Il dit, personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il en prend soin. Et c'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Dans nos relations de couple, est-ce qu'il prend soin de l'autre? Ou est-ce que l'autre est juste un instrument instrumentalisé pour notre satisfaction? Et il y a deux manières de vivre le couple. Soit l'autre est un instrument pour ma satisfaction, et quand il ne me satisfait plus, je change. Hein. Hop, je divorce, je retourne. Ça me convient de vivre. Ou bien, est-ce que je donne ma vie? Est-ce que je prends soin de la relation conjugale? Est-ce que pour moi elle est précieuse? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que je la cultive comme on va cultiver un jardin, comme on va cultiver des belles fleurs? Ou est-ce que je le délaisse? En dehors du couple, Paul s'attaque ensuite aux relations entre enfants et parents. Mais vous voyez, pour ce qui est concrète, elle est faite de quoi? Elle est faite de relations, elle est faite de famille. Et puis, vous avez des enfants. Et bien là aussi, il va falloir faire du ménage. D'abord, il s'adresse aux enfants en leur disant, enfants, obéissez à vos parents, chapitre 6. Honore ton père et ta mère. Et ça s'adresse aux enfants comme aux adultes que nous sommes devenus pour le fait d'honorer nos parents. Pas pour le fait de leur obéir quand on est adulte, mais pour le fait de les honorer. Ce respect qu'on garde pour ses parents, même quand en grandissant, on s'est aperçu de tous les travers qu'ils ont. Parce qu'ils en ont. Et oui, quand on devient adulte, on s'aperçoit que nos parents, c'est pas des vedettes, hein, des fois. Hein. Est-ce que ça nous permet de sortir de ce respect d'un enfant pour ses parents? Non, Seigneur nous dit non. Tu vas t'attacher à honorer ton père, ta mère, même si à certains égards, tu peux constater que c'était pas des champions. Hein. Ouais. Mais, respecte. Honore-les. Et il y a des belles promesses avec ça. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon alors, après, il y a les parents et les enfants, parce que ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Il dit, père, n'irritez pas vos enfants. Nous, on est fort pour les énerver. On a des attentes, on a des exigences, souvent justes, mais pas toujours. Puis parfois, c'est un peu selon le vent. Et si on a bien dormi, mal dormi, si on a passé une bonne journée ou pas au travail, le Seigneur nous demande de tenir un cap dans l'éducation des enfants qui ne soit pas une éducation qui finalement va les agacer tout le temps, va les irriter, parce qu'elle manipule une thèse, parce qu'elle n'est pas régulière, parce qu'elle est incohérente, parce qu'elle est excessive. Et je me souviens de pardonnera s'il m'écoute, hein, il a très longtemps, hein, c'est mon frère qui voulait pas que ses enfants mettent les coups de la table, quoi. Ah, c'est coups de la table, tout ça. Et puis, plus tard dans le repas, mon frère était comme ça, quoi. Voilà. Le coup sur la table, la main. Et puis, donc, son grand qui fait, papa, toi aussi, tu mets tes coups sur la table. Oui, mais moi, je suis le père, et je fais tout ce que je veux pour te manger, pas de soir, hein. T'as soumis. Bon, c'est sûr que là, on est,
il y a de quoi hériter. Parce que ça n'a pas de cohérence.
Pas depuis, il a changé. Hein. Il a appris, père, n'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà un cap. Est-ce que je corrige mes enfants? Est-ce que j'ai cette discipline bienveillante qui les garde du n'importe quoi et qui les instruit dans le Seigneur? En les instruisant selon les Seigneurs. Est-ce que je passe à côté du fait d'instruire mes enfants dans les voies de Dieu? C'est pas que le job de l'église et des monitrices de l'école du dimanche d'instruire les enfants dans le Seigneur. C'est d'abord le travail des parents. Alors ensuite, on va continuer vite, hein. On passe à autre chose. Tiens le vol. Ça n'a rien à voir avec ce qui précède, hein, mais voilà. Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà. Est-ce que vous avez un problème avec l'honnêteté? Parce que des fois, on vole un peu, quoi. Et si c'est le cas, arrêtez. Voilà, c'est... On va pas dire par 3 millions, mais si vous volez, ben, arrêtez. Parfois, c'est subtil, hein, c'est des petites choses. Ah, c'est pas du vol, c'est... C'est quoi? Je ne sais pas à quoi, mais pas à quoi. Si tu n'as pas payé et que les autres doivent payer, c'est que c'est du vol. C'est quoi le vol? Le problème du vol, c'est que je prends les fruits du travail de quelqu'un d'autre. C'est ça le vol. Et c'est pour ça que ensuite il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous avez vu que dans tous les exemples qu'on a, généralement, il y a l'aspect négatif et l'aspect positif. On ne va pas se contenter de ne pas voler. Il dit, tu avais l'habitude de profiter de façon indue du travail de quelqu'un d'autre, et bien maintenant tu vas travailler tes mains pour pouvoir donner aux autres le fruit de ton travail. C'est, on est dans l'absolu contraire. Vous voyez, par exemple, si vous me volez de l'huile d'olive, je vais être très fâché. Vraiment, ça va m'énerver. Ne me piquez pas de l'huile d'olive. Parce que les olives, je les ramasse sur mon arbre, à la maison, et croyez-moi, ça me gonfle. Parce que l'année dernière, j'ai dû y passer 8 heures, quoi. Ça pour 3 litres d'olive, quoi. Et cette année, c'est encore plus haut, c'est bon, ça va, il va pas, je crois que je vais m'y prendre. Mais je vous garantis que quand vous avez mis 6 ou 8 heures à un travail pour avoir un fruit, déjà, on travaille pour avoir du fruit, hein, et que quelqu'un vient vous le voler, venez plutôt ramasser les olives chez moi. Hein. Et c'est ça le vol, c'est, je prends les 8 heures que Adrien il a passé à ramasser ses olives, et ben, hop, et ben c'est dans ma poche. Tout au contraire, il dit que chacun travaille, hein, de ses propres mains pour qu'il ait de quoi donner. Bon, je ne vous garantis pas que je vous donnerai de l'huile d'olive. Mais le Seigneur nous invite justement à dire, tu vois, tu as travaillé, tu as passé des heures à ça. Tu peux aussi le partager. Tu peux aussi donner à quelqu'un qui en a besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, ça nous amène au travail, à la question du travail. Parce qu'on a une vie de couple, on a une vie de social media, mais on a aussi une vie professionnelle. Il dit plutôt que de voler, mets-toi à travailler. Oui, mais le travail, c'est dur. Oh, le travail d'employé, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'au chapitre 6, Il dit, serviteur, obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Oh là 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 là. Ça veut dire que quand je suis au travail, il va falloir travailler avec sérieux, avec fidélité, pas juste quand on m'observe, pas juste quand je pointe, mais avoir cette conscience professionnelle de dire, ben, je suis payé pour un travail et je vais le faire. Qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas. Que je sois bien payé ou que je sois mal payé. Si j'ai accepté le travail, j'ai accepté, je suis libre de ne pas accepter. Avec empressement. Il dit avec empressement. Dans une autre étude, il dit non seulement pour ceux qui sont d'un caractère doux et paisible, mais aussi pour ceux qui sont pénibles, qui ne sont pas pénibles. Oui, le fait d'être un enfant de Dieu doit faire une différence sur le lieu de travail. Un chrétien travaille avec sérieux, avec fidélité. Il n'est pas paresseux. Il n'essaye pas de gratter les heures. Il n'essaye pas d'entortiller son patron. Il est à ce qu'il fait. Il le fait le plus fidèlement possible. Parce que il ne le fait pas pour des hommes, mais il le fait pour le Seigneur. Alors ensuite, nous avons la cupidité. On a parlé du vol. Éphésiens nous parle de la cupidité. L'amour de l'argent. Vouloir en avoir toujours plus. Plus de biens matériels, plus d'argent. Et on nous dit, va falloir arrêter, hein. Si l'argent domine votre vie, ben elle est mal dominée. Et vous savez, souvent on dit qu'il y a trois grandes choses qui gouvernent le monde. Hein. Le sexe, l'argent et le pouvoir. Et ne serions pas honnêtes si nous disions que ça ne nous touche pas un petit peu. Et le Seigneur veut rectifier cela. Et voilà pourquoi, par exemple, pour les patrons, c'est la diapo d'après, le patronat. Il dit, vous maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces. Pourquoi? Bien parce que souvent, quand on est un patron, la cupidité naturelle de l'homme a de quoi trouver un lieu dans l'entreprise qu'on dirige pour se servir. Et donc, on peut se mettre à exploiter les gens, à les maltraiter, à demander à mettre une pression salariale, une pression sur les salariés. Pourquoi? Parce qu'on en veut toujours plus. Et notre texte nous dit non. Maître, agissez de même à leur égard. C'est-à-dire, quelque part, le patron est au service aussi de ses employés. Les employés sont au service du patron, c'est vrai. Mais les patrons sont au service, je veux dire au service humain de leurs employés. C'est pas la cupidité qui doit diriger les choses. Mais c'est de voir dans son employé un être humain qui parfois peut être malade, qui parfois peut rencontrer des problèmes personnels, qui parfois, vous voyez, il y a toute cette flexibilité que le Seigneur demande au patron. Ensuite, nous résumons un petit peu, hein, sexualité, couple, enfants, parents, vol, travail d'employé, cupidité, patronat. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais c'est pas terminé. Et on va terminer par deux choses. Et ce sont les dernières, mais pas les moindres. La gestion du temps. C'est dans Éphésiens 5, il a dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, voilà un mot compliqué, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ces trois versets nous parlent de la gestion du temps. Quelle est notre gestion du temps? Est-ce que nous gaspillons notre temps pour des bêtises, pour des frivolités, pour des choses qui ne comptent pas, en oubliant celles qui comptent? Toute la question est là. C'est quand je gaspille du temps à des choses qui ne comptent pas, et que celles qui comptent, je ne prends pas le temps. Notre temps bien utilisé en adéquation avec la volonté de Dieu. Hein. Il a dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Un enfant de Dieu, il ne dit pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il ne dit pas, j'ai qu'une vie, je vais en profiter. Voilà, ça c'est le grand chose. J'ai qu'une vie, je vais en profiter. Hein. Attends, voilà. Et mon temps, eh ben je vais en profiter. Mais profiter de quelle manière? Dans la volonté de Dieu? La chose, c'est que la volonté de Dieu, elle n'est pas faite de bêtises. La volonté de Dieu, elle est faite de choses qui en valent vraiment la peine. Des choses importantes. Et notre devise ne devrait pas être « j'ai qu'une vie, je vais en profiter ». Mais de dire « le Seigneur me donne un certain nombre de jours à vivre et je vais les utiliser au maximum selon lui. » En comprenant quelle est sa volonté, en recherchant sa volonté, en la discernant. C'est une attitude vraiment où on est là en disant, Seigneur, je veux trouver quelle est ta volonté pour ma journée, pour ma semaine. Comment je vais utiliser mon temps de manière optimale? On a si vite fait perdre du temps. Et les ados, ce sont les grands champions de ce sport-là. Avec, en plus, les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, vous pouvez perdre du temps à rien, mais en perdre beaucoup. Et voilà d'ailleurs pourquoi la dernière chose dont il parle, c'est l'addiction. C'est le verset 18, c'est celui qui succède immédiatement au gaspillage du temps. Alors là, c'est l'alcool. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de là débauche. Oui, l'alcool est des substances dont on peut se remplir et dont on devient dépendant, qui crée une addiction. Et là, on vous dit, mais vous passez à côté de la plaque. Hein. Moi, je veux pas des gens sous contrôle qui sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parce que quand on s'enivre, on n'est plus maître de soi. C'est l'alcool qui nous dirige. Et le Seigneur veut qu'on fasse extrêmement attention à ce dont nous nous remplissons. Voilà pourquoi le contraste, c'est soyez au contraire remplis de l'Esprit. De l'Esprit de Dieu. C'est vraiment, de quoi est-ce que tu remplis ta vie? De quoi est-ce que tu te remplis? Tu te remplis de bibine et de tarif. Tu te remplis de films? Ben écoute, il va falloir faire quelque chose. Hein. Un film de temps en temps, c'est comme un verre de temps en temps. Très bien. Et le problème, c'est l'addiction. Quand on ne se passe plus, parce qu'on s'en remplit, et on est mal quand on l'a plus. Il y a tellement de choses dont on peut se remplir, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit. Et à contrario, ce texte nous dit, soyez au contraire remplis d'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. A contrario, il dit, donnez une vraie place à des choses qui concernent Dieu. Remplissez-en votre agenda, y compris dans la musique que vous allez écouter, qui va exercer une influence sur votre âme. Alors, nous terminons, je vous repasse sur la liste, vous l'avez sous les yeux. Paul, il parle concrètement. Peut-être ce matin, vous êtes interpellé par un domaine plutôt qu'un autre. Peut-être c'est le domaine de la colère. Peut-être c'est le vol. Peut-être que vous êtes un voleur, personne ne le sait ici, mais vous l'êtes. Bon. Peut-être c'est des mauvaises pensées, la sexualité, tout ça. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en ordre là-dedans. Peut-être c'est votre attitude professionnelle. Peut-être qu'au fond, je suis paresseux. En réalité. Peut-être qu'en fait, le travail ne m'aime pas parce que j'aime pas le travail. Hein? Peut-être. Peut-être que mon attitude vis-à-vis du patron. Hein? Je sais pas. Peut-être que c'est ma gestion du temps. Peut-être qu'au fond, j'ai des journées remplies de vide. Remplies de pas grand-chose. Qui ne construisent pas. C'est une addiction. Le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous faire passer à autre chose. Est-ce que vous voulez passer à autre chose? Ça, c'est la première question. Est-ce que je veux passer à autre chose? Et j'ai besoin de me rendre compte que ces choses-là m'abîment, me détruisent. Ce sont des chemins de mort. Et Seigneur, veux me faire quitter ce chemin. Et dis-toi, suis-moi. Il veut nous emmener dans une vie où les choix que nous faisons sont de bons choix, non pas parce qu'ils proviennent de nos goûts, nos envies, nos émotions, et parce que ce sont des choix qui viennent de Dieu. Et parce qu'ils viennent de Dieu, ce sont des bons choix. Vous savez, quand on vit comme on en a envie, comme on le sent, généralement, ça ne nous mène pas très loin. En tout cas, ça ne nous emmène jamais au bon endroit. Le Seigneur veut nous emmener là où notre vocation nous appelle. Il a dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ne soyez pas à côté de la plaque. Et c'est extrêmement important, autant pour pouvoir rentrer dans ce projet de Dieu de réunifier ce qui est fracturé, une humanité qui est fracturée les uns avec les autres. Autant pour mon âme et mon état d'âme, pour être puissamment fortifié dans mon être intérieur, comme nous dit Éphésiens 4. Le Seigneur a une belle perspective pour nous. Une belle perspective. Mais dans notre quotidien, de façon concrète, il va falloir qu'on confesse des péchés. Il va falloir qu'on règle des choses. Il va falloir qu'on renonce à certaines. Il va falloir que certaines ne soient plus même nommées parmi nous. Alors, boulot. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pour réussir. Peut-être vous dites, mais moi, j'ai pas Jésus-Christ. Là, j'aimerais changer de vie, mais je sais pas trop comment faire. Eh bien, c'est le commencement. C'est comment devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Comment devenir une nouvelle créature? Eh bien, vous pouvez, dans le secret de votre cœur, prier, vous adresser à Jésus, dire « Tu es mort pour moi, tu as donné ta vie pour moi. Les péchés que j'ai commis et qui méritent quelque part une punition de ta part, eh bien, Jésus a été puni à ma place. Que je sois sauvé. Tu peux dans ton cœur prier en disant à Jésus, je veux être sauvé, je te prends aujourd'hui, comme mon sauveur, comme mon maître que je vais suivre, à qui je donne ma vie. Prions. Seigneur, tu nous interpelles aujourd'hui sur beaucoup de sujets, peut-être beaucoup trop même, mais tu veux nous en montrer un ou deux en particulier. Un Dieu qui, en ce moment, nous vole la joie qu'il y a en soi. Une ou deux choses qui font, parce qu'elles ne sont pas en règle, en fait, dans notre vie, Seigneur, qui nous empêche tout simplement d'être heureux. Et qui nous empêche d'être constructifs avec les autres autour de nous. Tu veux, Seigneur, nous amener à ces deux choses. Être des personnes qui sont constructives pour les autres, qui réparent les cassures. Et puis être des personnes, Seigneur, où dans notre âme, dans nos émotions, nous ne soyons pas dans cendres, en ruine, mais nous soyons fortifiés, renouvelés, de manière puissante et dynamique par ton esprit. Seigneur, je veux te prier si quelqu'un ce matin désire te rencontrer, désire t'appartenir, sait qu'il ne t'a pas encore pris comme son maître, comme son berger, mais qu'il y a ce combat dans son cœur pour se donner à toi. Je te prie qu'il puisse le faire dans son cœur maintenant ou en rentrant à la maison. Mais que cette décision soit prise de te donner sa vie pour passer des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus. Amen.